France Inter.
Moi je veux bien.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec... Ils sont en train de passer des commandes avec Leïla Cadeau-Elodie.
Bonjour.
Tutoté. C'est fini, oui, avec Camille Lavabre, bonjour. Emma Beaujean, Tanguy Pastureau, Hall de la Vienne, et nos invités Audrey Floreau et Danny Boone.
C'est quel côté le casque?
Leïla Cadeau.
À votre droite.
Ça, c'est le mien.
Voilà.
Je savais
qu'il ne fallait pas l'inviter. Donc, Audrey Floreau et Danny Boone, pour la première fois, réunis ensemble.
À la radio.
Au cinéma aussi. Au cinéma aussi, avec ce film qui sort ce mercredi qui s'appelle Regarde, un film d'Emmanuel Poulain-Arnaud. On va en parler évidemment jusqu'à midi et demi, mais d'abord, petit tour de table, de savoir quelle est la dernière chose. Alors, ne me dites pas, je veux voir le visage de mes enfants, le visage de mes parents.
On n'aurait pas répondu ça. Voilà.
Si vous deviez garder, non, parce que c'est l'un des climax du film. S'il y avait une dernière image à voir avant de ne plus jamais rien voir, qu'est-ce que vous aimeriez voir, Camille?
C'est bien à l'intérieur.
J'irais mon plat préféré dans une crique méditerranéenne.
Ah oui.
Tu cumules.
Je me fais un pique-nique.
Ok, d'accord. Pique-nique dans les calanques.
Probablement.
Ok, Emma ?
Moi, je crois que j'aimerais bien revoir des trucs qui me paraissaient hyper grands quand j'étais petite et de me dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être Rikiki. Genre, j'aimerais bien là, si c'est mes derniers jours.
Rien d'intime, hein, on est
non, d'accord. Non, mais c'est pas normal, c'est en grande forme.
Non, mais c'est dans le film. C'est l'un des sujets du film.
Ouais, je sais pas. Je crois, par exemple, la cour de mon école maternelle, quoi, un truc qui me paraissait immense, je crois que ça serait mignon de le revoir.
Ah, mais t'as tellement raison. T'as jamais fait ça ?
Non, jamais.
Je suis retournée dans mon bahut, c'est vrai. Tu dis, mais
c'est minuscule.
Ouais,
c'est une maison de poupée. Ouais.
Exactement. Ouais. Toi, Léa ?
Une paire de fesses. Mais une belle, quoi.
Bah oui, bien sûr.
Ah ouais.
Et tu dis, ah waouh.
Je parlais d'un paysage.
Bah oui, mais c'est beau, je veux dire du statuaire. Je parle d'une statue, bien sûr. Je parle d'une très belle statue.
Ah oui, oui.
Bah. Hercule.
Une œuvre.
Comment
quoi.
Veux-tu
voilà.
Bruno.
Le visage de mes enfants.
Non. Tu n'as pas d'enfants.
Non, écoute, un paysage que j'avais adoré au Brésil. J'étais allé avec ma famille là-bas et ça s'appelle Lençóis do Maranhão. Et
c'est oh, mais comment il ferait, le gars? En fait, c'est un plat portugais que tu viens de dire.
C'est un paysage avec plein de lagunes et tout, c'est un peu désertique et c'est vraiment le plus beau paysage que j'ai vu de ma vie.
Ok. Tanguy, Pastureau, s'il y avait.
Une dernière chose à voir, ce serait la réalité, c'est mon équipe de médecins à l'hôpital américain de Neuilly et qui se disent on peut pas le lâcher avec tout ce qui nous file comme blé.
Un paysage.
Faut absolument le sauver. Bah, ce serait ça, ce serait le visage de ces médecins qui veulent que je vive malgré tout et revenir surtout de ce dernier moment parce que je ne veux pas décéder, bien sûr.
De l'AF. Non, c'est pas, je parle pas de décéder, oui. Je vois de plus voir.
Ah, de plus voir, ah, d'accord. Oui, oh non, voir. Pareil, les médecins, j'aime les médecins.
Rien d'original, la mer et la plage de Luxe-sur-Mer, voilà. Je,
ah, oui, okay. C'est chiant.
Je d'accord. Ouais, c'est chiant, ouais, c'est un peu...
Moi, coucher de soleil sur l'Estérel. C'est-à-dire, donc, on est dans le sud de la France.
Ah ouais, placement de produits.
Un coucher de soleil, comme il y a dans le film, d'ailleurs, le Golden Hour, je crois que ça s'appelle, dans les Landes, cette image, la luminosité qu'il y a dans le film.
Magic Hour, ouais.
Magic Hour, pardon.
C'est un mélange de Landes et Californie. Ah bah ouais.
Audrey, s'il y avait un paysage à voir avant de ne plus jamais rien voir de la planète.
Je pense que je choisirais un truc justement que j'ai jamais vu, mais un truc un peu festif, genre une full moon party où on se jette de la de la couleur comme ça, voyez.
Ah oui.
Un truc vraiment festif.
Ibiza.
Avec beaucoup de gens.
Ok.
Un truc que je connais pas parce que j'ai jamais fait, mais j'aimerais bien l'idée qu'on se jette de la couleur. Bah, quitte à plus voir de couleur, autant
voir tout d'un coup. Voilà. Très bien.
Mais comment tu nettoies après?
Je plonge
dans la mer. Généralement, c'est au bord de l'eau, les foules.
Moi, comme dernier truc que j'aimerais voir, un miroir.
Bienvenue, Narcisse.
Et dire voir ou ne pas voir, telle est la question.
Non, mais en même temps, c'est pas bête.
Dernière fois.
Voir une dernière fois.
Voir Danny Boone une dernière fois. Avant de ne plus rien voir, tu pars d'un cadeau.
Je dirais, ah bah tant mieux. Au revoir. Ça m'a fait plaisir.
Le film est une comédie extrêmement émouvante, comédie humaine. Je le dis parce que c'est Emmanuel Poulain-Arnaud qui, dans une interview, a confié avoir eu une maladie grave. grave et que donc, quand la famille a été touchée par cette maladie grave dont il est soigné aujourd'hui, il a vécu des moments aussi bien de larmes que de rire, que de fou rire autour de cette maladie. Et c'est ce qui se passe. Un couple séparé, c'est ce que vous interprétez tous les deux, un couple divorcé, se retrouve confronté à l'annonce d'une rétinite, d'une maladie en tout cas incurable, qui promet à un jeune homme d'à peine 16 ans de rapidement devenir aveugle. Et là, ils se disent, la situation fait qu'ils vont mettre un tout petit peu de côté leur brouille et leur tension pour offrir des vacances de rêve à leur enfant, pour que justement, ils voient quelque chose de magique et de bien. Personne autour de cette table n'a parlé de Vulcania, donc déjà de ce côté-là, c'est dans la bande-annonce, je ne spoil rien. L'une a des rêves de Brésil, de voyage au bout du monde, lui, le Puy-de-Dôme, c'est pas mal aussi.
Ben oui.
C'est vrai, c'est beau.
C'est tout proche.
Mais bon, c'est pas forcément pour la dernière chose, je sais pas.
Non,
mais c'est très, effectivement, très beau. Ils sont pas sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que...
Ni sur le même budget, puisque lui, il est un peu radin.
C'est-à-dire qu'elle est plus orientée sur emmagasiner un maximum de belles images avant qu'il perde la vue, et lui est plus du côté des médecins qui disent, justement, il faut profiter de ces derniers moments de vue pour qu'il mette à profit, pour qu'il apprenne, qu'il se familiarise avec le braille, avec la canne et tout.
Et c'est ce qu'il dit dans la bande, c'est ce qu'il dit dans la bande-annonce, c'est lui qui va finalement décider, ce sont mes vacances, c'est moi qui décide, et ça sera chez Papichou.
Voilà.
Dans les Landes.
On en parle, et c'est sublime, et le paysage, moi ça m'a donné envie d'y aller en tout cas, je sais pas, c'est Osgore, non que...
C'est Osgore, c'est le vieux Boucau.
Le vieux Boucau, c'est trop beau.
C'est magnifique.
Ah ouais, c'est magnifique.
On a passé 3 mois de pluie là-bas.
Sous la pluie.
Ah bon ?
C'est incroyable.
Non.
Il y a énormément de pluie, et à chaque fois qu'il y avait un rayon de soleil, on changeait le plan de travail, on disait bon allez on sort, vas-y on surfe, c'est parti. Et
donc, en tout cas ça donne de très belles images de soleil et de coucher de soleil dans le film. On en parle jusqu'à midi et demi, mais d'abord voici Hold de la Fan d'Audrey Fleurot, notre invité, et Danny Boone.
Fan d'Audrey Fleurot, vous devez avoir un lien avec le domaine Louis Fleurot. C'est un grand jus de raisin de Bourgogne, c'est cadeau. Vous goûterez, regardez ça, c'est merveilleux. Attention, l'abus d'alcool peut nuire à la laine. Je suis fan de Danny Boone. Je suis embêté, j'ai rien trouvé à boire qui s'appelle Boone. Mais bon, je peux vous inviter à la cantine ce midi. Attention, l'abus de friture peut nuire, sauf si t'es ch'ti. Et vous êtes là ensemble pour le film. Regarde. Non, c'est pas le retour de Christine Lagarde, c'est votre fils qui perd la vue pendant l'adolescence. Quand je vois les tronches ici le matin, je crois que votre fils a de la chance. Rétine et pupille, votre garçon a les yeux qui vrillent, mais veut se lancer juste le plus auguste défi. Oh, la vie tout entière sera peut-être un brin galère. Oh, mais t'inquiète, t'occupe, car Parcoursup, c'est pire. Oh, vous, trop fier, étourdi par cette misère, vous comprenez pas qu'il rêve de voir son grand-père et la grande mère. Oh, vous, dans le grave, la situation, ça vous gave. Je parle pas de la cécité, mais de la promo sur Inter. Je suis fan de vous, vous êtes mes stars chéries. Et je suis fan de vous deux physiquement aussi. Ah, qui sont jolies les filles de HPI. La 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 la. Ah, qu'il est aussi joli le mec des ch'tis. La 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 la. Ouais, vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec
mon petit
cri à la bande originale.
Oldelaf, qu'elles sont jolies les filles d'HPI.
Et où es-tu, Oldelaf? C'est vrai ça?
1er avril au Folies Bergère.
Au Folies Bergère, ça change pas.
C'est noté. Donc, cette histoire extrêmement émouvante, parce que, évidemment, elle est sciée sur la. Avec modération.
Ouais. Parce que j'adorerais tellement avoir un lien de parenté avec Louis.
Ben peut-être que c'est le cas. Et
ouais,
que...
je crois pas.
Non. Alors, c'est plus lui qui s'occupe de ce jus de raisin
fermenté.
Ah non, mais
je vous conseille vraiment d'aller goûter ça.
Avec modération.
Il y a de la bière, Boone, je te signale.
Ah, mais je savais pas.
Mais oui. Et voilà.
Qui n'a rien à voir ou c'est la
Non, rien à voir. Non, il y a un E au bout.
D'accord.
Ouais. L'étiquette est large.
Donc on va arrêter de parler d'alcool, si vous voulez. Merci. Ça m'arrange pour l'ARCOM. Et
de revenir. Toute l'émission
hein, avec modération, ça va être fatigant à la fin. Hein.
Et Dany est venu avec sa petite bouteille.
Mais oui, aussi, très bien. Avec modération. Allons-y.
Du curcuma.
Donc, sorti ce mercredi de ce film avec Ewan Bourdelle qui joue le rôle
Bourdelles.
De.
Bourdelles.
À Bourdelles, il faut dire.
Bourdelles.
Non, pas jusque-là.
Avec également Nicolas Marié, parce qu'il faut prononcer toutes les lettres.
Voilà.
Le film sort ce mercredi. Il vous réunit pour la première fois. Ce qui vous a attiré dans ce projet, au-delà de travailler ensemble, j'imagine, c'est de pouvoir rire de choses graves aussi. C'est le mélange qu'il y a entre l'émotion et l'humour.
C'était avant tout le scénario, c'est-à-dire qu'en lisant le scénario, moi je me suis dit faut pas passer à côté quoi. J'avais vraiment très envie de raconter cette histoire et puis j'avais vu les deux précédents films d'Emmanuel qui m'avaient beaucoup plu. Je sens qu'il amène, il amène les acteurs à un endroit de jeu qui est vraiment chouette, c'est-à-dire très épuré et en même temps, nous pendant, il a pas arrêté de nous dire moins.
pour être dans la vérité, ouais, dans
less is more.
Ouais. Et nous, on était là,
Ce qui est pas simple avec personnage comme le vôtre aussi, qui est un peu rock'n'roll, qui
Elle est carrément exubérante.
Et puis même, moi, je me disais, mais moi, tu m'annonces demain que mon fils va perdre la vue dans deux mois. Je pense que j'ai une réaction beaucoup plus forte que ça.
Elle existe,
en fait,
cette réaction forte. Vous êtes tous les trois sur la plage.
Ah oui, il y a celle-là.
Oui, c'est cathartique.
Mais en fait, c'est ce qui fait que le film n'est pas tire-larme, n'est pas pathos. Et ça, je trouve ça formidable. Moi, j'ai toujours un peu du mal avec les films où je sens qu'on me dit, tiens, là, il faut que tu pleures, là, il faut que tu sois ému.
Il y a un moment où ça arrive quand même.
C'est très émouvant.
Oui, mais ça laisse l'émotion... la place au choix.
Et puis, l'émotion arrive à des moments où on ne s'y attend absolument pas. C'est-à-dire qu'on est cueilli par cette famille, cette histoire qui nous touche et on s'identifie. Et on, à la fois, même dans le rire, on rit de situations. On n'est pas drôle dans la manière de jouer, mais c'est l'histoire est tellement bien écrite et tellement forte, justement, parce qu'Emmanuel a vécu aussi ce genre d'histoire. Donc c'est très beau, c'est très sincère, c'est très fort, et ça nous emmène loin, quoi, l'histoire.
Alors vous avez quand même deux caractères, on se demande à quel moment ils ont pu tomber amoureux.
Oui,
on le comprend quand ils sont dans le bar, on les retrouve gamins.
La scène.
La scène, Psycho
Killer. Mais qu'est-ce que c'est ? Ouais, ils ont été jeunes, ils ont dansé. Il y a des photos, il y a des traces qui prouvent qu'ils pouvaient s'entendre et même il y a une chorégraphie.
Mais est-ce qu'ils étaient à jeun quand ils s'entendaient ? Pas sûr.
Avec modération.
Ils ont changé, c'est-à-dire qu'on sent qu'ils sont très différents, mais que depuis leur séparation, ça n'a fait que les éloigner l'un de l'autre. Mais c'est vrai que c'était compliqué parce qu'on n'avait que cette scène pour faire.
Couple.
Pour qu'on puisse raconter le couple que ça a été. Alors qu'on les
Je trouve que la préparation du jus d'orange est assez émouvante aussi. Elle est très jolie cette scène.
Observée par l'enfant.
Observée par l'enfant. De petits
gestes. Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce que vous faites Il est pas vous mettre ensemble.
Il est presque gêné de voir ses parents avoir une attention pour l'une ou pour l'autre. Elle est infirmière. Elle est tout.
Ah non, elle est pas infirmière. Elle gère le personnel d'un hôpital. Non, elle a un boulot important.
Ouais.
Enfin, infirmière étant très important. Ouais. C'est pas du tout ce que je voulais dire.
Et ceci est la fin de la carrière.
Mais je le pense tellement en plus.
Oui, évidemment. Voilà. Évidemment. En tout cas, un poste mieux payé que les infirmières.
Voilà,
c'est ce que vous vouliez dire. Et
puis elle est festive, on va dire ça. Elle a une vie.
De célibataire.
De célibataire.
Sur des applications de rencontre.
Voilà, ouais. C'est ça. Elle. elle kiffe.
Alors que votre personnage, Danny Boone, lui, il est plutôt recasé, alors très projection de PDF dans une société, des grandes tables de réunion.
Un peu rigide, un peu psychorigide,
ouais, il est dans le commerce, dans le marketing, dans l'étude de marché.
Oui, complètement.
Sur le point de devenir papa.
Voilà.
C'est vrai, on l'apprend à un moment donné. Oui, oui, mais ils sont tous les deux justement enlevés de cette vie-là, de ces deux nouvelles vies, pour se retrouver ensemble, pour aller dans les Landes avec leur fils et s'occuper de leur fils.
Non, mais c'est ce que l'on voit, c'est un vrai couple de divorcés. C'est-à-dire que justement, quand on se dit mais comment ils ont pu être ensemble, raison de plus pour que les chemins soient totalement écartés.
Et on commence par s'engueuler,
d'ailleurs. Séparés, ça commence par une engueulade.
Quand on part.
Ça commence par toutes les disputes de divorcés, c'est-à-dire bah non, c'est ton tour de faire ci, c'est ton tour de faire ça, c'est à toi de le déposer.
Ce qui exprime aussi leur angoisse vis-à-vis de leur fils, en fait. Oui. Comme ça, ça leur évite de parler aussi de ce qu'a leur fils et de la maladie. C'est une manière aussi de sortir cette angoisse alors que leur fils est présent, quoi.
Et il n'a, entre guillemets, tout ce qu'il demande, lui, c'est 15 jours de vacances.
Chez son grand-père,
ouais. Ouais, on comprend. Ouais, après, que c'est pas uniquement le grand-père, mais c'est tout, justement, le cadre, le paysage, l'endroit.
Le surf.
Le laisser-aller, le surf. Et Juan Bordelès fait vraiment du surf, il est clairement pas doublé en tout cas pour les scènes impressionnantes.
Ah si, c'est Dany qui le double.
Dany ne fait que nager à côté d'une planche, hein, de ce que j'ai vu en tout cas.
Ah bah, tout n'est pas monté, tout n'est pas monté, mais si, si.
Bah quand je fais comme ça avec la planche. Mais enfin,
ah oui, quand vous êtes allongé et que vous ramez.
Oui.
Ben, je vais chercher la vague. Ça commence comme ça, hein. C'est vraiment bien.
Faut passer la vague.
Ça pourrait être vague, vous l'êtes.
Merci beaucoup.
On en parle jusqu'à midi et demi. Voici Bruno Pecky.
Ah oui, Bruno.
Vous n'auriez pas fait le film comme ça, vous, Bruno?
Ah oula, bah non, Nagui, bien sûr que non. Hein. Audrey Fleureau et Danny Boone, on frise le dérapage, là. L'histoire est censée rendre hommage aux personnes atteintes de rétinite pigmentaire, donc des gens qui perdent progressivement la vue. Et vous, vous en faites un film? Une œuvre visuelle, quoi, je veux dire. Si vous voulez montrer l'océan, mettez juste le bruit des vagues, pas des images magnifiques de l'Atlantique en 4K sur grand écran, quoi. Et voilà, admirez ce que bientôt vous pourrez plus voir. C'est pas du cinéma, c'est de la cruauté, quoi. Prenez exemple sur nous, faites de la radio. Voilà. Alors je sais qu'en 2025, la radio est filmée, mais je vois les gueules des gens autour de cette table chaque semaine, donc vous pouvez me croire, l'image, c'est pas une grosse plus-value. Bon, votre film, je l'aurais pas fait comme ça, mais il est quand même touchant. Hein, il parle, on l'a dit, du jeune Milo, atteint d'une maladie dégénérative de l'œil qui lui fait perdre peu à peu sa vision latérale. En gros, il voit rien sur les côtés, il voit qu'au centre. Mm. En termes médicaux, on appelle ça le syndrome Bayrou. oui, alors, je sais pas si on se souvient de lui, François Bayrou, l'avocat de Bétarame. Moi, il me manque. Hein. Je suis peut-être le seul en France. Ça s'appelle comment ça déjà? Le manque de peau. Je n'étais pas super fier de celle-là.
Je savais.
En plus, perdre la vue, non, moi, j'ai réfléchi, mais ça réussit qu'aux chanteurs, quoi. Ray Charles, Stevie Wonder, Gims, que des voix magnifiques, quoi. Ah, et même Gilbert Montagné, hein, malvoyant, mais artiste incroyable, ouais. Même s'il reste incompris. Ah bah, quand Gilbert, il dit... Prends-moi la main, viens danser. Tout le monde pense que c'est une chanson joyeuse pour décompresser en musique, pas du tout. C'est un appel à l'aide. Ça signifie juste que si personne vient lui prendre la main, il reste toute la soirée sur sa chaise, Gilbert. Et attention, je vous vois venir. Tu peux pas te moquer des aveugles. Bien sûr que je peux, moi-même, j'ai un ami qui est climato-sceptique, donc il voit rien du monde réel. Lui, c'est pas qu'il voit pas sur les côtés, il voit pas ce qui arrive devant. Ouais. Bref, revenons au film, hein, qui parle aussi de famille. En gros, quand Milo apprend qu'il est atteint de cette maladie, il y a ses parents divorcés qui lui proposent de choisir des vacances où il veut. On l'a dit, hein, sa mère lui parle même du Brésil, du Mexique ou de la Tanzanie. Et lui choisit les Landes pour voir son grand-père. Ah bah, une chose est sûre, ça, j'aurais clairement pas fait comme ça, moi. Bon, c'est pas que pour voir son grand-père, hein, c'est aussi pour faire du surf et surtout pour une meuf. Donc en fait, c'est pour choper des vagues et choper tout court. Hein, c'est comme quoi les mecs commencent très tôt à ne plus penser avec leur cerveau. Après, je pense aussi que le choix des Landes, c'est surtout le choix de la prod. Hein. Ah bah, s'il y a moyen de gratter les aides de la région de la Nouvelle-Aquitaine et d'économiser les billets d'avion long courrier pour toute l'équipe, on dit pas non. Hein. Ah bah, si Milo avait choisi le Mexique, il n'y aurait plus le même budget. Il n'y aurait pas le budget pour Danny Foon et Audrey Fleurot. Hein. Ce serait Danny Morin avec Emma Bojano, ce serait pas les mêmes entrées. Quoi. Je vous le dis. Quoi. En plus, ça colle un peu avec le personnage du père, hein, qui est taxé de radin. Et ça, pour vous, Danny Boone, ça a dû être facile à jouer, quoi. Ah bah oui, non, oui, vous êtes une pince, Danny. Quoi. Non, on se connaît pas, mais je vous ai vu sur le JT de TF1. Voilà ce que vous avez dit par rapport à un service que vous avez rendu à Audrey Fleureau à la fin d'un dîner.
Et j'ai donc, commandé un taxi sur mon compte personnel.
Avec votre argent. Voilà.
Donc le mec a payé un taxi à son pote, il y a pratiquement 2 piges, et ils sont obligés de le raconter devant des millions de téléspectateurs, quoi. Si jamais c'était pas clair, Audrey, Danny veut te rembourser, quoi. Bon, pour résumer, j'aurais pas fait votre film comme ça, mais je trouve qu'il a une bonne morale pour tous les enfants de parents divorcés qui nous écoutent. On a trouvé le secret pour avoir des vacances en famille. Devenez malvoyant. Oh, ça va, faites pas les choquer, vous voyez le mal partout.
Je vais pas souligner.
Je pense que c'est un temps genre de vanne que vous aurez préféré être sourd. Hein.
Merci. 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 Bruno Péquier sur scène, bien sûr. La date la plus proche, c'est le 21 septembre. C'est ce dimanche à Genève pour un spectacle en faveur de l'association Stop Suicide avec plein d'humoristes qu'on adore et qu'on connaît. Emma Beaujean est ici présente, Lisa Delmoitier, qu'on embrasse, Alexandre Cominec, tout encore, et encore Thomas Wiesel. Et tu seras aussi sur scène à Genève les 28 et 29 octobre.
Exactement. Tiens, bah, à propos d'humoriste, Thomas VDB, comédien et humoriste, oui, fait partie de ce casting.
Tout à fait.
Mais il a un poker. Mais ça, cette scène est très drôle, comme beaucoup d'autres. Et puis il y a les copines, Amalia Blasco et Camille Solal jouent les rôles de... Enfin, la copine, pardon, c'est Amalia Blasco. Isabelle étant le nouvel amour de votre personnage d'Antoine. Donc Camille Solal, extrêmement drôle, oui, parce qu'elle a l'air tellement sur une autre planète, totalement décalée, et en même temps, elle comprend beaucoup de choses, ouais. Dans son rapprochement, Papichou est joué par Nicolas Marié, Milo, donc le jeune adolescent, est joué par Ewan Bourdelès. Ça ne doit pas être facile pour un acteur comme lui de se retrouver déjà entre deux monstres sacrés que vous êtes, et en plus jouer les aveugles, entre guillemets, ou en tout cas la diminution de la vue. Et c'est aidé par l'image, une sorte d'oxymore, c'est-à-dire que moins il voit, plus la lumière et le soleil brillent dans le film. C'est assez
Frappant,
ça.
Oui, c'est vrai. Non, mais il y a aucune fioriture dans le film, et les images sont très belles. Effectivement,
la lumière, justement, moi j'étais frappé par la lumière alors qu'on est en train de parler de
quelqu'un qui voit de moins en moins. Ewan était très, très mature. Hein. Il a passé du temps à l'INJA, d'ailleurs, à l'Institut des Jeunes Aveugles à Paris. On a tourné là-bas aussi avec
Et vous avez essayé les fameuses lunettes qui simulent justement la maladie.
C'est impressionnant. Donc ils ont plein de lunettes qui permettent de simuler les différentes maladies, de se rendre compte de concrètement si on a telle maladie, ce que l'enfant voit. Et donc nous, pour le coup, le nôtre a une rétinite pigmentaire, et donc en fait il voit de plus en plus comme dans un tunnel, la vision se referme de plus en plus dans un tunnel.
Il ne voit plus sur les côtés, et justement, alors au-delà des vannes faites par Bruno tout à l'heure, inspiré d'ailleurs d'une scène où justement le personnage d'Isabelle dit, mais tu vas voir, de toute façon la vie est pourrie, tout est moche, et regarde Stevie Wonder, formidable talent, Andrea Bocelli, formidable talent, Petrucci Chani, formidable talent, et ainsi de suite. Mais ça donne place justement à des gaffes, à des maladresses.
Comme dans la vie.
Il y a des rires.
En voulant être super positive, parce que donc elle est toute en développement personnel, elle est très 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 positive. En voulant être très positive, elle en devient un peu gênante.
Bah, gênante aussi d'exposer, parce que c'est l'un des soucis, c'est que lui veut cacher, cet adolescent veut cacher sa maladie et avoir une adolescence la plus normale possible, et que tout le monde en parle, que tout le monde le sorte, que le grand-père le reçoive en disant « ça y est, t'es miro, tu vois plus rien ». Enfin, les barrières tombent assez rapidement, et c'est là où ça devient drôle aussi.
C'est très proche de la réalité, en fait. Oui. C'est là où, justement, on rit à différents endroits et à différents niveaux des situations et de la réaction parfois très maladroite de l'entourage.
Et puis, lui est dans le déni, il a envie de passer des vacances normales d'adolescent. Enfin, il s'était tellement projeté à l'idée de retrouver cette fille, de faire du surf, donc il est un peu dans le déni. Et d'ailleurs, nous, au bout d'un moment, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'est pas en train de déconner, quoi?
Mais même lui, quand la réalité le rattrape, d'un seul coup, il y a des moments d'émotion hyper forts, parce que ça arrive de manière anecdotique voilà.
Et puis les ados aussi, entre eux, les scènes... ça joue, ça danse, ça rit. Autour de Rosalia. Mais il casse des tables, mais il rentre dans des poteaux, mais malheureusement la vue est en train de le quitter avec les accidents de la vie.
Mais c'est un ado et il sait comment se servir aussi de ses différences.
Exactement.
Et c'est ça qui est beau, c'est tout d'un coup, c'est regardez, moi je suis pas un individu lambda.
Il est devenu le centre de la discussion.
J'ai une spécificité et ça attire aussi les regards et les conversations. Il est malin.
C'est comment on traverse les épreuves d'une vie, quoi.
Mais c'est-à-dire qu'il pourrait partir en dépression aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il pourrait d'un coup s'enfermer, pleurer, ne plus vouloir croiser qui que ce soit.
Et ça aurait été un court métrage, du coup.
Mais il a plein de choses à voir qu'il n'a jamais vues. Voilà, il est quand même très intéressé par l'anatomie féminine, ce jeune homme, à juste titre, parce que c'est un peu la préoccupation de tous les jeunes.
C'est la période.
C'est la période.
Pour avoir des enfants du même âge, je confirme.
Des choses à dire sur la vie privée. Vous avez pu, ça a été compliqué d'organiser vos différents emplois du temps parce que c'est la première fois que vous tournez ensemble. Vous avez des plannings extrêmement chargés. Je dis ça parce que c'était l'une des angoisses dans une interview d'Emmanuel, le réalisateur, de dire c'était pas simple de les réunir. Ça a été si compliqué que ça?
Non, on a pris la première date où on était dispo tous
les
deux.
C'est ça, moi j'ai attendu que mon téléphone sonne, j'étais à la maison, je bougeais pas.
Non mais c'est quand même bizarre que vous donniez l'impression d'être inaccessible, indisponible, ou alors c'est la réponse que vous faites à beaucoup de projets pour être poli, pour ne pas dire j'aime pas votre projet.
On va pas minimiser, on est très occupés.
Et tant mieux.
Mais Emmanuel m'en avait parlé bien en amont. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait? On a attendu Dany, et puis voilà.
Ils ont fait une liste.
Voilà.
C'est ça. Voilà. On m'a attendu, c'est ça. Ils m'ont appelé la veille du tournage, sûrement pour remplacer quelqu'un.
Qu'est-ce qui vous a plu?
Non, mais à partir du moment où on reçoit un scénario aussi fort, aussi émouvant, aussi drôle, le fait de tourner avec Audrey aussi, moi j'étais très heureux. Enfin, voilà, je suis très admiratif d'Audrey, de son travail.
Aimé que la comédie ne repose pas sur vous
De raconter une histoire,
entre guillemets,
surtout.
Pour une fois.
Alors elle repose
sur scènes émouvantes.
Sur tout le monde. Ouais. Oui, alors, on a des scènes très émouvantes, ouais. Non, le film est. Alors, moi je l'ai vu 6 fois, par exemple. Non, mais.
Ça y est, vous avez compris?
Mais non. Tendu la perche. C'est mérité. Non, mais j'ai parce que je l'ai montré à mes enfants qui ont voulu le montrer à des amis qui m'ont dit papa, vas-y, voilà. Donc je l'ai montré à d'autres. Donc j'ai fait du piratage, en fait.
Nous avons la moitié du public. Alors,
lien du film.
Même les États-Unis ont vu le film.
Mon agent américain a vu le film, a adoré, a dit je voudrais le montrer à mon mari. Donc j'ai demandé une version sous-titrée. Et à chaque fois, je mettais le film et je m'installais, enfin, pour voir si ça marchait. Et puis j'étais pris dans l'histoire.
C'est marrant.
Non, sincèrement, c'est quand même assez rare.
On a eu un prix à Sundance. Hein. Ils l'ont diffusé déjà. Ouais.
Okay.
En avant première.
Ah, d'accord.
Tu l'as fait tellement tourner.
Là, Dany, c'est plus si on est dans la vanne ou dans la réalité. Ouais. Non, tu seras au courant. T'inquiète pas.
Non, mais c'est en tout cas pourquoi je dis ça. Voilà, parce que le film est bouleversant.
Il faut le préciser, c'est un film, qui se voit en famille, parce que moi, je pense que on sort d'un film comme ça en retissant des liens ou en tout cas en ayant encore plus envie de se
Fait du bien, le film fait du bien.
Exactement.
Ouais. Le bouche à oreille sera fort.
Ça fonctionne.
Alors moi, je l'ai vu avec mon fils et mon beau-fils. Mon beau-fils est vraiment dans la phase où il répond par ouais. Ouais, ça va pas plus loin. Je crois que ça a été la conversation la plus longue que j'ai eue avec lui à l'issue du film. J'étais hyper contente.
C'est toujours.
C'est le meilleur film de l'année. Ouais. Et après, on a parlé et tout, mais j'avais pas entendu autant de mots de sa bouche depuis ses 8 ans.
Mais dès que la mue aura terminé,
c'est ça.
Non, franchement, j'étais hyper contente des retours du public, mais en particulier de mes enfants, parce que c'est pas le public le plus facile, évidemment.
Il y a beaucoup de musique dans ce film. Alors, ce qui est amusant, c'est que la bande-annonce, il y a Benson Boone qui est... c'est la musique de la bande-annonce, mais c'est pas dans le film. Vous avez remarqué ça ou pas?
Bon, c'est souvent comme ça.
Il y a une musique différente pour la bande-annonce. Ok, je savais pas.
Oui, parce que ceux qui font la bande-annonce, les sociétés qui font souvent mettent des musiques un peu témoins, ils mettent pas toujours les musiques des films. Ouais.
Okay.
Mais en tout cas, la BO du film est puissante. Avec les Talking Heads, les Pixies, Rosalia qu'on a entendu tout à l'heure. Et le casting puissant également, Audrey Fleurot, Dany Boone, Ewan Bordeles, Nicolas Marié, Amalia Blasco, Camille Solal, Thomas VDB, ça joue extrêmement bien. Et malgré les consignes du réalisateur Emmanuel Poulain-Arnaud, faites-en moins, c'est super bien. Parce que ça amène justement à un niveau de quotidien, de justesse et de sincérité.
Hein.
Ouais. Et puis il y a des regards qui valent toutes les répliques aussi du monde. Voici Camille là-bas.
Oh, bravo.
D'avance, bravo.
On va plutôt faire une interview raccrochée à l'actu. 9 mois après son investiture, Donald Trump voit les défis s'accumuler. Afin de mieux saisir les enjeux, nous recevons ce matin l'attachée diplomatique à l'ambassade des États-Unis en France, Brittany McMurphy. Bonjour Brittany.
Bonjour à vous Leïla, ainsi qu'aux Français de souche.
Brittany, avant
souche,
de...
Souche,
cela fait plusieurs fois qu'on vous reçoit sur ce plateau, mais votre nomination est finalement assez récente et les auditeurs ne vous connaissent pas vraiment. Pourriez-vous nous raconter un petit peu votre parcours?
Of course. Well, avant, j'étais stagiaire dans le Fox News. Et un jour, Donald Trump, il est venu dans le studio et il m'a dit, tu es très jolie. Alors, j'ai rigolé et il m'a dit, comment tu t'appelles? J'ai dit, Brittany. Il m'a dit, Brittany, c'est pas une région de la France, ça? Alors, j'ai rigolé, j'ai dit, je ne sais pas. Et il a rigolé et j'ai rigolé et il a rigolé et voilà, maintenant, je suis là.
Non, mais c'est quand même, c'est quand même rapide, hein?
Ouais. Oui, c'est toujours très rapide avec Donald. Mais vous savez, j'aime aussi beaucoup de choses françaises comme le ratatouille, l'impressionnisme ou le mépris.
Oui, enfin, bon, en même temps...
Oui, voilà, comme
ça. OK, OK.
Et j'aime aussi beaucoup Céline Dion. Oh my God, pour que tu m'aimes encore, I love it.
Elle vient du Québec.
Oh, sorry, je ne connais pas encore bien toutes vos régions.
Très bien, je voudrais maintenant que l'on se penche sur les difficultés que rencontre le président Trump.
What difficultés? I mean, quelles difficultés? Il n'y a pas de difficultés.
Bah, je pensais par exemple à la mobilisation de l'armée pour rétablir l'ordre dans certaines villes américaines qui est très mal perçue par une partie de la population.
Les Mexicains et les traîtres.
On a vu cette mobilisation à Washington, Los Angeles, Chicago. D'ailleurs, savez-vous si Donald Trump va continuer?
Oui, of course. Là, il hésite entre Sacramento, San Francisco, et Paris.
Paris, Texas?
Non, non, Leïla. Paris, c'est la capitale de votre pays.
Oui, Britannique.
Enfin, votre pays. Leïla Kadour Boudadi.
Oui. Oui, donc.
Build the wall.
OK, mais vous êtes vraiment sérieuse?
Well, écoutez, Donald, il est très inquiet de la situation dans la France.
Quelle situation?
Oh là là, mais vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière ici? Bloquons tout! Mais c'est quoi ça? C'est quoi? On parle de la France ou de les artères de Donald?
Et donc le président Trump voudrait envoyer l'armée américaine ici?
Non, d'abord, il voudrait vous aider pour le gouvernement.
Nous aider?
Oui, c'est n'importe quoi, là. Vos premiers ministres, ils durent moins longtemps que Donald dans le lit. C'est quoi le jeu exactement? Le premier ministre qui tient plus de 6 mois, sa mère, c'est un démocrate? Oh my God! En plus, je venais juste d'arriver à retenir le nom de le dernier.
François Bayrou.
Yeah, all right, Bayrou. OK, oui, voilà, c'est ça. Qu'il ressemble à un Mr. Potato en instant du divorce. Et là, vous mettez Sébastien, le cul nu. Wow, well, I'm gonna call him Seb. Okay.
Oui, très bien. Donc, le nouveau Premier ministre doit maintenant former un nouveau gouvernement.
Yeah! Et c'est là que nous allons le aider, OK? Vous allez voir, ça va être fantastique. So, first, déjà, on va garder le cul nu. Then, ministre de l'Intérieur, on prend Gilles Lelouch.
L'acteur?
Non, le policier de la Bac Nord. Then, ministre de la Justice, Patrick Balkany, love the teeth. Then, ministre de la Jeunesse et des Sports, Juju Feet Cats. Ministre des Affaires étrangères, Thibault in shape. Oui, je sais, c'est pour qu'ils soient ensemble tous les deux. Ils sont super cute. And then, ministre de l'économie, Hearst l'Enfoiré.
Le rappeur.
Oui, lui qui fait le moulaga.
Ah, mais...
Bon. Et enfin, ministre de la Culture, Rachida Dati.
Rachida Dati?
Oui, elle, je crois qu'on ne peut vraiment pas l'enlever.
Très bien, bon, écoutez, je crois qu'on arrive à la fin.
De France?
Non, de cette interview.
Oh, OK, so, merci beaucoup.
Merci à vous, Brittany.
Et n'oubliez pas de me appeler si vous voulez Make France Great Again.
Bravo!
Camille, alors.
Bravo,
ah, oui, bravo. Super, ça fait peur tout ça.
Le film s'appelle Regarde, il est au cinéma à partir de ce mercredi.
Psycho Killer, qu'est-ce que c'est?
Nous recevrons tout à l'heure Caroline Veil, psychanalyste et psychologue clinicienne, pour parler justement de...
Des divorcés.
Des divorcés face aux épreuves. Ouais. C'est-à-dire comment ça se passe quand on a un moment dramatique à vivre au sein d'une famille, d'un couple divorcé. Est-ce que ça retisse les liens ou au contraire ça crée des tensions supplémentaires? La musique dans vos vies, Audrey Fleureau et Danny Boone, on va l'évoquer, on va commencer en 1991. Audrey, vous écoutiez...
Pour tout bagage, on a 20 ans. On a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort. On meurt souvent et puis l'on sort. On va griller une cigarette. L'amour, ça se prend et puis ça se jette. Pour tout bagage, jeune à sa gueule, qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du dedans. Ça fait parfois un de ces boucans, pas moyen de tourner le bouton de cette radio. On est marron, on passe à l'examen de minuit, et quand on pleure, on dit qu'on rit.
Ça vous fait quoi de réécouter cette chanson?
Moi, j'adore le dancehall, hein, moi, dès que ça... c'est une chanson qui m'a toujours énormément émue. Bon, déjà, à 91, je suis théâtreuse, donc moi, j'écoute Barbara, j'écoute Brel, j'écoute Léo Ferré.
Les textes, oui.
Et je sais pas pourquoi, elle m'a toujours fait chialer, cette chanson. Elle est d'une justesse folle. Et même en la réécoutant, là, ça m'émeut.
Ça vous touche encore?
Ouais.
En 91, Leïla, dans la vie d'Audrey.
Le théâtre, bien sûr. Et vous vous présentez comme l'enfant de parents qui ont été contrariés dans leur désir professionnel.
Oui, ça a été ma grande chance.
Ouais. C'est, expliquez-nous pourquoi c'est une
dans
chance.
Dans le sens où ils ont eu l'intelligence de se dire le théâtre, c'est un peu chaud. On n'y connaît rien, on ne connaît personne là-dedans. C'est quand même très casse-gueule. Mais vu qu'ils avaient été l'un et l'autre contraints dans leur désir, ils se sont dit
ils voulaient faire quoi, vos parents?
Alors mon père voulait être géomètre. Oui. Son frère aîné a raté le concours, donc sa mère lui a dit ton frère a raté le concours, on t'a pas inscrit, hein.
Ah oui.
Oui, hein, bon. Vu que t'es plus conclui, voilà. Et ma mère voulait être autrice. Ah. Et donc on lui a dit oui, tu vas faire de la couture. Voilà.
Oui.
En même temps, elle n'a jamais rien écrit. Hein, donc,
On n'a pas été aidé non plus. Hein.
Non, bien sûr.
Ça s'encourage.
Danny Boone, dans ces années 90, vous écoutiez.
Exactement.
Jean-Jacques Goldman, nous acte manqué.
Elle est dingue, cette chanson qui parle de psychanalyse et de choses à rater. Quoi. Elle est magnifique. Et elle ne vieillit pas. Les chansons de Jean-Jacques Goldman ne vieillissent pas. Elle continue à nous accompagner aujourd'hui.
Oui, on a les murs qu'on n'a pas réussi à briser, c'est-à-dire c'est
magnifique,
tout ce qu'on n'a pas réussi dans la vie, mais ça nous fait avancer quand même.
Exactement.
Et est-ce que vous sentez ce rythme infernal?
C'est mon premier spectacle.
C'est le nom du spectacle.
C'est vrai. Est-ce que vous sentez ce rythme infernal?
C'était quoi le principe de ce one man?
C'était très peu de public. 4-5 personnes maximum par jour.
Très peu de chorégraphie.
Très peu de chorégraphie. Si, non, je dansais quand même.
Ah, ouais.
Je dansais au début.
Il y avait déjà des personnages.
C'est vraiment votre point fort, la danse.
Ah, si, si.
Ah, si. Je confirme.
Merci, Audrey. Audrey confirme.
Dany bouge très bien.
La musique.
Bizarrement, mais très bien.
Voilà, c'est ça. La musique, oui, c'est votre truc. Vous jouez.
Des instruments, certains
piano,
instruments.
Piano, guitare.
Ouais.
Et c'était quoi les grands thèmes du spectacle à l'époque? On se dit toujours dans le premier spectacle.
J'avais un premier sketch où je passais la tête au rideau et je disais bonsoir, je sors de l'hôpital psychiatrique. Non mais je suis complètement guéri. Hein. Bonsoir, je sors de l'hôpital psychiatrique. Non mais je suis complètement guéri. Hein. Je disais ça 10 fois et à la fin je disais non mais là je m'entraîne parce qu'en fait je sors peut-être demain. Et il y avait des gens qui partaient de la salle.
Mais ça marche toujours cette vanne. Ça marche.
Apparemment.
Les gens partaient en disant ça doit pas être le comique. Je jouais au Lucernaire, il y avait des abonnés qui venaient.
Ah ouais, mais c'est dur.
Et ils partaient en disant ça doit pas être ça le comique là. C'est dur, gars en réinsertion sociale, c'est pas possible.
C'est dur un public d'abonnés parce que
au début c'est dur quand on démarre.
Et d'où vous vient votre sens de l'humour? Qu'est-ce qui vous avez
J'ai fait
grandi...
rire ma mère beaucoup, ma mère.
Oui, qui vous faisait rire? C'est-à-dire que est-ce que vous aviez
la même
une sorte d'idole que ce soit
quand j'étais gamin, de Funès, Bourville à la télévision et dans les films de Gérard Horry, beaucoup, Peter Sellers dans les films de Black Edward, mais Raymond DeVos.
Évidemment.
J'adorais Raymond DeVos, j'étais très fan.
En 2000, Audrey Fleurau, vous écoutiez...
Y a comme un goût de foulec chez les mots, comme un goût de boulette sur les ondes. Alors on déconne, on étonne, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Génération, non.
À cause de l'école?
Diams, formidable.
Mais quel était votre rapport à l'école justement, puisque elle dit c'est pas l'école qui nous a donné nos codes.
Ça a été long. Ouh là là, qu'est-ce que ça a été long. Ça a été long. Et puis moi j'étais une laborieuse, donc je bossais beaucoup.
Et
sans y arriver, vous voulez dire?
Si, si, si. Ah. Non, si, si. J'ai quand même eu un bac avec mention bien. J'ai fait un petit. J'ai quand même fait hypocagne-cagne. Mais à quel prix, quoi? Donc ça a été quand même.
Éprouvant.
Ouais, ça a été long.
Et là, vous sortez de l'ENSAT. C'est une école de théâtre à Lyon. Donc on est quand même sur quelque chose de très reconnu, avec beaucoup de joie ou pas, ce passage à l'école-là? Ça change tout?
Ah, bah oui, parce que c'était vraiment l'école que je voulais avoir, parce que je voulais prendre mon envol et donc partir de chez mes parents. Et donc, j'ai pas présenté le Conservatoire de Paris parce que sinon, j'avais aucune. Je restais chez mes parents. Et je voulais faire une école un peu sérieuse pour les rassurer et puis pour me rassurer moi.
Mais pas à Paris.
Mais pas à Paris. Donc, il me restait Strasbourg, le TNS et l'école de la rue Blanche qui était délocalisée à Lyon. Et alors, vraiment, j'ai regardé une carte de la France. Lyon m'a semblé plus sexy, plus dans le sud. Je connaissais ni Strasbourg, ni
Strasbourg
Lyon.
Strasbourg et les infirmières sont vos deux amis à partir d'aujourd'hui.
Non, mais je voudrais revenir sur ça parce que.
Si vous êtes infirmière à Strasbourg.
C'est tellement une énorme maladresse. Non, mais je veux qu'elle mende respect pour les infirmières. Donc, vraiment. Est-ce qu'on peut revenir? Est-ce que je fais mes plates excuses sur ce.
Non, mais c'est pas bien ce que tu fais, Nagui.
Ah, j'ai honte. Allez. Ça a été vraiment une maladresse.
Mais on coupera au montage.
Oh là là. Non, je suis vraiment pas fière.
Attendons la fin de l'émission, il y aura une troisième catégorie qui va arriver. Non.
Voilà, du coup, je sais plus ce que je disais. C'était vachement intéressant.
Que vous avez choisi Lyon. Vous avez choisi Lyon plutôt que.
Oui, voilà. Bah, oui, parce que juste parce que c'était plus dans le sud. Et j'ai fait un très bon choix. Et donc, je n'ai présenté que Lyon et j'ai eu l'entrée. Et donc, je suis partie m'installer à Lyon. C'était super.
Et vous avez commencé à travailler tout de suite, ce qui n'est pas toujours simple pour un jeune comédien.
Non, effectivement. Moi, j'ai toujours eu très, très peur de ne jamais travailler parce qu'on m'a tellement dit que ça allait être compliqué, que personne ne m'attendait, qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Je me suis tellement préparée à ce que ça allait être. À ce que ce soit la galère.
Mais parce qu'en que fait, les intermittents entendent plus souvent non.
Ben bien sûr.
Que oui. Quoi,
et c'est... donc j'ai quand même toujours l'impression. Ah. Et en fait, j'ai toujours eu la chance d'énormément travailler et surtout de toujours être très heureuse de l'endroit où j'étais. Et pourtant, je pense que je vivrais jusqu'au bout avec cette inquiétude de ne pas travailler.
Ouais, ouais. Ouais.
Danny Boone, vous, dans ces années 2000, vous écoutiez. Tom Waits.
Ah, elle démarre au bout d'un moment la chanson.
Mais nous, laquelle est la fin de la précédente?
C'est long.
Et pourquoi ce titre?
c'est l'album qui est sorti cette année-là et j'adore. C'est très blues, cet album est très blues, mais j'aime beaucoup Tom Waits. Ouais. J'adore. Jouer Tom Waits au piano, j'adore. Et j'étais à Saint-Luc à tourner dans une école de dessin quand j'ai découvert qu'on m'a donné une cassette de Tom Waits. Et je pensais d'ailleurs que c'était un bluesman noir américain. Et,
alcoolique.
Il boit pas mal, mais je pense pas qu'il soit alcoolique, mais voilà. Et c'est un. Je l'ai découvert ensuite dans les films de Wim Wenders. D'ailleurs, il est dans le dernier film de Wim Wenders. Et il était dans Down by Law. Avec Benigni. Un film en noir et blanc, il y avait Roberto Benigni, Tom Waits, c'est le troisième, je me souviens plus.
Il y avait Benigni dans Down by Law.
Ouais.
Ok.
Qui dessinait, il était dans une prison, il dessinait une fenêtre pour voir sur l'extérieur à la craie.
Évidemment, c'est son truc.
Ouais. Okay.
Danny, on n'est pas là pour faire la promo d'un autre film.
En tout cas, il m'a donné envie de revoir Down by Law.
Bah oui, mais enfin bon.
Je l'ai mis très beau. Ouais. Voilà. Et donc Tom Waits devient aveugle parce que.
Non. Et on vous retrouve à Los Angeles à cette période-là, sur scène.
J'ai joué,
Théâtre.
Effectivement, j'ai joué en anglais, ouais, à Montréal, au festival Just for Love, juste pour rire. Et puis à Los Angeles, ouais, c'était intéressant comme expérience. Ouais.
Et le public est réceptif à un humour différent ou est-ce qu'il y a l'humour universel?
J'ai eu un très beau compliment d'un flic américain qui était là dans la salle qui m'a dit après c'était génial, j'étais mal assis, j'ai pas eu mal au cul.
Ah oui, c'est un autre
public. Ah
ouais,
ouais. Très bien. Le nom que vous cherchez, c'est John Laurie, saxophoniste.
John Laurie, voilà.
Voilà. On est en 2005 et Audrey Fleurot, vous écoutez. I'd let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. Vous aimez la danse?
Ouais, vous aimez ça danser? J'adore, moi j'adore les morceaux qui font qu'on a du mal à rester assis.
Et là, c'est 50 Cent avec The Candy Shop. Il se passe quoi en 2005 dans la vie d'Audrey Fleurot ?
La Dame du Lac. La Dame du Lac. Qu'est-ce qu'on l'adore. Vous avez incarné ce personnage pendant 6 saisons, je crois.
Tout à fait.
Ouais. On parle souvent de votre rencontre avec Alexandre Astier à l'école, en fait. Je crois que c'était à Lyon.
Il m'a vu jouer au théâtre à Lyon. Ouais, ouais.
Et c'est un personnage, j'imagine qu'on continue de vous parler de ce personnage.
Mais oui, c'est rigolo parce qu'en fait, il y a un moment, j'ai pas compris que ça n'a pas arrêté d'être diffusé en fait. Donc il y a vraiment des gens de 20 ans qui m'en parlent comme si j'avais tourné ça la veille. Alors que bon, non, ça fait très bizarre. Et puis non, c'est vraiment un chouette souvenir parce qu'on a fait ça tellement à l'arrache. Que quand je vois le succès et puis sur des nouvelles générations, c'est un peu magique, quoi.
À cette même période, Danny Boone, vous écoutiez Caravane. Est-ce que rien ne peut arriver, puisqu'il faut qu'il y ait une justice. Et c'est son premier long, Leïla.
La Maison du Bonheur, c'est votre premier long métrage et chose assez inédite. Vous aviez par le passé écrit la pièce de théâtre. En vous disant, je vais en faire plus tard un film, mais je commence déjà par le porter sur scène ou pas ? C'était ça la logique ?
La logique, c'était, je voulais écrire pour partager la scène avec d'autres.
Oui.
Et ensuite, j'avais l'idée de Bienvenue chez les Ch'tis, mais je voulais d'abord faire un film avant pour voir si j'étais capable de faire un film.
Mais non.
Oui, oui, pour pas faire un film sur ma région d'abord, okay, parce que si je ratais le film sur le Nord, ma mère m'aurait tué. non, mais c'était un truc important pour moi, donc je me dis, est-ce que je suis capable de réaliser, je sais pas. Et donc j'ai fait cette pièce, La Maison du Bonheur, qui a été un gros succès, La Vie de Chantier. Et voilà, et j'ai rencontré Claude Berry, Jérôme Sédoux, et c'est comme ça que je voudrais signer deux films et pas un, avec l'idée, le pitch de Bienvenue chez les Ch'tis, parce que je me dis, si je rate le premier, au moins j'aurai un deuxième essai. Et voilà.
Et Claude Berry ayant fait Germinal, le Nord, ça lui parlait. Ouais, carrément.
Enfin, il comprend, le Ch'ti, j'entendais beaucoup quand je donnais mon scénario Bienvenue chez les Ch'tis à lire, on me disait, c'est quoi Ch'ti? Première question, et deuxième, on comprend rien. Je disais, mais c'est plus facile à entendre qu'à lire.
Ouais, je dis,
c'est une comédie d'auteur. Ne vous inquiétez pas.
Caroline Veil nous a rejoint pour parler de Regard, revenir sur ce film présenté par Audrey Fleurot et Danny Boone, psychanalyste, psychologue clinicienne. Bonjour.
Bonjour.
Nous parlons donc de ces parents divorcés qui se retrouvent face à un accident de la vie, face à un drame, face à une maladie. On peut parler aussi de choses moins graves comme un problème à l'école ou comment un couple divorcé généralement réagit face à un énorme problème ?
Alors généralement le couple est divorcé, mais le couple parental se reforme. Maintenant il y a la fiction et la réalité.
Donc c'est les femmes qui s'en occupent, quoi.
Pardon ?
C'est les femmes qui s'en occupent.
Non, ce ne sont pas les femmes qui s'en occupent. C'est-à-dire que, idéalement, on imagine que tout va bien se passer, que chacun va être dans l'empathie, etc. Tout dépend, bien sûr, de la manière dont on s'est séparé. Mais il faut bien voir que
mais la santé d'un enfant, son avenir, lorsque là, c'est en jeu, est-ce qu'on en oublie, finalement, les querelles du couple ?
Écoutez, il faut voir que chacun des protagonistes se trouve dans la situation suivante. Angoisse, culpabilité et peur. On est impuissant, donc on est frustré. On ne sait pas comment réagir. La culpabilité, parce que vous le vouliez ou non, la maladie ou un autre drame, accident d'un enfant, renvoie toujours à sa faillite en tant que parent. On s'imagine qu'on peut tout empêcher, qu'on est là pour le protéger. Or là, d'un seul coup, on est confronté à son impuissance. Donc, on va s'attribuer forcément la responsabilité de ce qui arrive, même si c'est un sentiment qui est totalement irrationnel. Ensuite, on a peur. Tout dépend, bien entendu, de la gravité de l'accident ou de la maladie. Mais disons que l'angoisse prédomine. Ensuite, on est aussi dans un état de détresse. Parce que si le pronostic est compliqué...
Quoi faire, oui, c'est ça. Il n'y a pas de solution,
voilà.
C'est encore plus grave.
Et c'est généralement dans ces moments de détresse et de désespoir qu'on se rend compte qu'on est très seul. Qu'on a le plus besoin de soutien et de réconfort.
Est-ce que l'amour peut revenir sous prétexte d'être à nouveau un cocon protecteur pour l'enfant ?
Écoutez, il faut voir que une fois que je vous ai donné tous ces paramètres, on n'est pas spécialement dans un rapport de séduction. Qui plus est, quand c'est grave...
Alors, je ne parlais pas de séduction, je parlais d'amour. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'enfant, il a été l'enfant de l'amour à un moment.
Il a été l'enfant de l'amour et il est de toute façon la priorité des parents. Donc, l'amour de l'enfant amène à partager de nouveau. Mais très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on s'isole avec sa peine. On aimerait pouvoir dire les mots, etc. C'est pour ça que c'est important de verbaliser le cas échéant, que les groupes de parole peuvent t'aider à ce genre de choses.
Quel conseil donner à des parents qui sont en train de traverser ou vont traverser une épreuve aussi grave ?
Eh bien, se faire entourer. Se faire entourer, se faire aider, se faire accompagner, parce que c'est très difficile de traverser seul une épreuve. C'est difficile d'être malheureux tout seul. Donc, ne pas hésiter à dire à l'autre, par exemple, en même temps qu'on a peur, qu'on souffre, qu'on est très mal, qu'on est confronté à ce sentiment
d'impuissance. C'est ce que l'on voit dans le film, d'ailleurs. Absolument, c'est ce qu'il, ça transpire, ce besoin de communiquer. Jules et Julie, Histoire double, c'est votre dernier livre, c'est un roman que vous avez publié chez Anne Carrière. Merci Caroline d'être revenue à ce micro. Caroline Veil, voici l'hommage d'Emma Beaujean.
Ah oui, bonjour tout le monde. Alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui j'ai décidé de rendre hommage aux rumeurs. Les rumeurs, c'est terrible, on a tous connu ça dans l'enfance. Des fois ça commence à l'école, des fois plus tard. Et les rumeurs, ça peut aller très vite. Hein. Je dirais même que des fois Nagui, ça peut galoper. Vous l'avez ou pas? La rumeur sur Nagui qui tue des chevaux. Oui. Vous avez entendu parler
de ça? Oui,
c'est une dinguerie. Ça va aller fumer. En gros, il y a une rumeur qui disait que Nagui butait des chevaux dans son temps libre. C'est absurde.
Bah oui, c'est vrai. Ouais.
Peut croire que Nagui a du temps libre. Et alors, justement, j'avais profité pour faire mes petites recherches sur cette chronique. Justement, je me suis dit, je vais aller trouver des rumeurs qui circulent sur toutes les personnes autour de cette table, plus ou moins. Bah, à peu près, hein, j'ai bossé, quoi. Je me suis dit, je suis tellement bien payée. Oh, ça serait dommage de ne pas travailler. Alors, les absents ont toujours tort. On va commencer avec Daniel Morin.
Ah oui.
J'ai entendu dire que, donc là, il n'est pas là aujourd'hui. Et en fait, apparemment, il ne vient pas dans l'émission quelquefois parce qu'il fait des allers-retours en Turquie pour se faire poser des implants capillaires. Et ben, Propal, il faut se faire rembourser, mon grand. Non. C'est un peu dur à visualiser, mais dites-vous que la semaine dernière, j'ai enlevé un grain de sésame que j'avais coincé entre mes incisives en regardant mon reflet dans son crâne. On continue avec Leïla Kadour.
Oui.
Alors Leïla, apparemment, j'ai lu quelque part que toi, tu aurais 17 chats chez toi. C'est n'importe quoi, c'est fou ça. Donc en fait, dès qu'une femme, elle réussit dans ce pays, on veut la faire passer pour une sorcière à moitié folle qui n'a pas une famille stable et qui vit recluse et n'importe quoi. Enfin, il suffirait de s'intéresser 2 secondes à Leïla pour savoir qu'elle en a que 14 des chats. On continue les rumeurs. Je sais pas si vous vous rappelez du site Vie de merde VDM. En gros, les gens viennent raconter des anecdotes pas cool qui leur sont arrivées et qui terminent par VDM, vie de merde. Eh bien, il se dit que Oldelaf le visite tous les jours. Oh, gna gna gna, aujourd'hui ma copine Emma, elle a dit que je ressemble à un prof d'histoire en plaçant déguisé en chevalier pour la fête du lycée. Gna gna gna. Effectivement, VDM. Et alors, c'est marrant, Dany et Audrey, que vous soyez là en même temps. La vie est bien faite. Et ça tombe bien parce que j'ai entendu quelque chose qui vous concerne tous les deux. Figurez-vous, Dany, que j'ai entendu dire que vous alliez refaire Bienvenue chez les Ch'tis, mais avec Audrey Fleureau cette fois au casting, et ce serait Bienvenue chez l'HPI. Voilà.
Ami, avec la cube dans le bureau, l'avion résolu la quête, Bilou. Alors,
j'en profite pour passer un message à mon agente artistique. Je t'embrasse, Malizy. C'est juste pour lui rappeler que je maîtrise les accents. Voilà, les caucasiens, pas les racistes. Attention, hein, je rappelle qu'il vaut mieux nager là où on a pied. Et voilà, encore une nouvelle preuve que mon talent a des limites, mais pas de frontières. Hein. Alors, ce que je voulais dire, concernant les rumeurs, l'OSK, j'ai dit ça tout à l'heure, j'ai senti que ça pouvait titiller un peu, hein, que c'est quelque chose d'important, quoi, les rumeurs, que tout de suite, ça renvoie au personnel, quoi. Et puis, c'est dur, des fois, de se tenir droit quand on entend des chicaneries derrière soi. Et c'est pas tout le temps vrai. Moi, par exemple, c'est pas moi, Gabriel, qui ai brûlé l'appartement après que tu m'aies quitté. Voilà. En tout cas, il y a eu un non-lieu. Mais le plus important, c'est d'être droit dans ses bottes comme un hostie de caribou, voilà. Et moi, on m'a dit quelque chose par chez nous, là où j'ai grandi, à l'île de la Réunion. On m'a dit te pèse la mouka, tu causes dans mon dos, c'est que vous y aimez mon qui. Traduisez, si vous parlez dans mon dos, c'est que certainement vous aimez mes fesses. Et finalement, c'est donc à mes fesses que j'ai décidé de rendre hommage aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.
Bravo Emma Beaujean,
Emma,
tous les talents.
Absolument.
absolument Emma Beaujean tous les vendredis à 21h et c'est au théâtre des Mathurins.
Tanguy Passureau, oui. De quoi vas-tu nous parler dans la prochaine
Je vais vous parler de Daniel Morin, figurez-vous, dont j'ai vu le spectacle samedi, c'est pour ça qu'il n'est pas là, il se repose. Mais aussi d'un autre senior, Paul Watson, le papa des cétacés, qui était à la fête de l'UMA samedi, ça s'est pas super bien passé en fait.
Audrey Fleurot et Danny Boone sont nos invités, nous parlons de Regarde, le film sortira ce mercredi, film avec Ewan Bourdelès, Nicolas Marié, Amalia Blasco, Camille Solal, Thomas VDB, le tout étant magistralement réalisé par Emmanuel Poulain-Arnaud. La bande originale avec Leïla, bonjour. Jean Camille, Bruno Becky, Olvela, Tanguy Pastureau et nos invités Audrey Fleurot et Danny Boone.
Ah oui.
France Inter, la bande originale. Leïla Kaddour et Nagui.
À l'affiche de ce film réalisé par Emmanuel Poulain-Arnaud qui a remis un scénario qu'il a arrangé, je sais pas comment dire, adapté, un scénario qu'il a reçu, en tout cas, mais qui a trouvé un écho en lui puisqu'il a été frappé d'un cancer quand il était jeune, donc il a connu ce qu'une maladie grave pouvait amener au sein d'une famille, et il l'a dit dans une interview, c'était à la fois des moments évidemment de tristesse, d'angoisse, mais aussi des moments de rire. Alors c'est peut-être un rire nerveux par moment, parce qu'on ne sait pas comment se comporter par rapport à la maladie, mais ça a apporté des vannes, et il avait envie de revivre cette situation, et c'est exactement ce qui se passe dans cette comédie humaine, pas du tout dramatique, mais où on voit ce couple de divorcés, joué par Audrey Fleurot et Danny Boone, face à leur adolescent de 16-17 ans, Ewan Bourdelès, qui donc apprend qu'il va devenir aveugle, et c'est une au-delà de ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Caroline, notre invitée Caroline Veil, notre invitée psy, c'est qu'il y a en plus la notion de maladie génétique. C'est-à-dire que chacun se demande qui des deux est responsable, entre guillemets. Il y a des gènes.
Ouais.
Inquiet même de savoir si ça ne va pas continuer dans une fratrie qui pourrait s'agrandir aussi, ce qui rajoute une tension supplémentaire. Mais heureusement qu'il y a Papichou, Nicolas Marié, qui lui est resté un gamin. C'est-à-dire il planque les bonbecs, il planque le chocolat. Oui, c'est ça. Il planque les frites, il planque tout ce qui est gras, chocolat, en sucre, il le cache en même temps, quoi. Carpédième, c'est
il
ça.
A du diabète.
Oui, ça va. Bon, c'est pas...
Oui, mais il n'est pas hypochondriaque comme vous.
Ah bah non, ça va, c'est vrai.
Donc, lui, il se dit je m'en fous. Ouais, j'ai du diabète, je suis malade, mais j'aime le chocolat, j'ai envie de le manger, quoi. Je profite. Et c'est là où les deux se retrouvent, et l'adolescent et Papichou, c'est-à-dire chacun sert d'alibi à l'autre.
Ils ont des très belles scènes.
Ils deviennent très complices face aux deux parents qui ne savent plus quoi faire pour le protéger, pour se dire même. Il y a une scène très émouvante où vous savez que vous êtes séparés et vous resterez séparés. Simplement, vous vous dites, il va avoir besoin de nous toute sa vie.
On saura,
sa canne blanche, quoi. Il y a des mots qui sont utilisés qui font froid dans le dos.
Oui, puis elle lui dit, tu ne me lâches pas. Même si tu... Enfin, voilà, j'ai besoin de toi.
Et c'est vrai qu'il y a des moments de rire dans des moments de drame. Moi, j'ai vécu ça avec ma fille qui était très préma, qui est née à 6 mois de grossesse, donc elle faisait 920 grammes, elle était, c'est très compliqué, et la première semaine, elle faisait beaucoup d'arrêt cardiaque, enfin, c'était un cauchemar, et on, avec sa mère, on était
angoissé
devant la couveuse, et la puéricultrice arrive, enfin, l'infirmière, et nous dit, allez, on va faire un petit câlin, quoi, parce que... Et moi, je comprends qu'elle veut nous faire un câlin.
Oh, la gêne!
Parce que. Et alors qu'elle parlait de peau à peau avec notre fille.
Vous avez fait un peau à peau avec l'infirmière?
Non, du tout, mais j'étais hyper gêné. Je me dis, bon, elle propose un câlin parce que c'est moi.
Vous êtes un autographe, on fait
et
un selfie.
Je suis très embêté et je regarde Yaël. Et je lui...
Oh, le boulet!
Et je lui dis.
Il a mis tout depuis.
Et non, et je lui dis, vas-y, fais-le toi. Elle me dit, fais-le toi. Quoi, je dis fais le câlin à l'infirmière, quoi, parce que moi je me sens pas de le faire, quoi. On était désespérés tous les deux, quoi. Et elle comprend que j'ai mal compris, elle se met à rire et l'infirmière revient en disant qu'est-ce qui se passe, et je lui dis non, lui dis pas, s'il te plaît. Et donc elle lui dit et donc elle dit à l'infirmière, il croit que c'est vous lui faire un câlin, ça. Et après, pendant 3 semaines dans l'hôpital, dès que je croisais quelqu'un, il me faisait un petit câlin.
Génial.
Et donc c'est des moments.
Et pardon, vous l'avez fait le poids à poids?
Oui, évidemment. J'ai le record de temps de l'hôpital de Chambéry. Je les salue d'ailleurs, la néonate de Chambéry. J'ai le record de peau à peau, j'ai tenu 6 heures avec ma fille, parce que quand on l'a l'enfant sur
c'est
soi,
génial,
le,
ce
le corps, le cœur ne s'arrête plus, enfin, n'arrête plus. Enfin, c'est merveilleux, c'est des moments magiques, ouais.
Des moments magiques, il y en a dans ce film. Il y a aussi évidemment l'adolescence, l'éveil, la sexualité, la séduction qui commence, qui démarre, notamment entre le personnage joué par Ewan et Amalia Blasco. Ça donne des scènes extrêmement drôles aussi, très naturelles. Elle joue formidablement bien cette jeune actrice.
Emmanuel
aussi.
Écrit très bien les scènes d'adolescents. Il a, dans les dialogues, c'est pas du tout caricatural, c'est très réaliste. Et les enfants se retrouvent. Nos enfants se sont vachement retrouvés dans les personnages.
Et puis il y a Camille Solal, qui est la nouvelle compagne d'Antoine dans le film, qui semble totalement jet-lagué, qui semble totalement sur une autre planète, et qui pourtant devine, comprend des choses avec un sens, et notamment une scène où vous êtes au téléphone, et elle sait exactement ce que vous faites, des gestes que vous faites, sans être en visio,
ouais, hein,
mais
drôle,
ça c'est extrêmement drôle. Et Thomas VDB donc, qui est l'un des gars trouvés sur une appli. C'est-à-dire qu'elle est un peu désespérée, quoi.
Le prof de surf, et j'adore quand il dit pourquoi
architecte.
T'as mis archi. Ouais, prof de surf à 50 ans, je croyais que c'était pas génial. Tu bossais pas dans la mode, toi?
Et puis, grande chorégraphie.
Psycho killer, qu'est-ce que c'est?
Audrey Fleuro et Danny Boone dans une choré.
En diablet.
Oui. Digne des Grammy Awards aux États-Unis. Ça a demandé beaucoup de travail de ce. Vous êtes amusé à le faire?
On s'est beaucoup amusé à le faire, mais c'est vrai qu'on était un peu mal à l'aise parce que le réalisateur avait prévu une chorégraphe pour faire. Et donc on.
Pour être synchro, oui.
On a fait une séance et en fait on s'est rendu compte qu'on allait s'amuser assez facilement et qu'on n'avait pas envie que le truc soit
dirigé.
Chorégraphié en fait. On s'est dit on va jamais faire deux fois la même chose, c'est un peu dommage. Quand vous avez la chance qu'il y ait une aisance comme ça, une simplicité.
Moi ça m'a fait penser à Friends, et évidemment, c'est-à-dire que la choré référence, enfin on l'a tous en tête, il y avait ce côté très complice.
Ils sont très complices, ouais.
Et ça fonctionne. Ouais. Et puis surtout, ça revient même des années après leur brouille.
C'est ce qui permet, c'est la scène qui permet de croire à ce couple, de croire que ce couple a été amoureux pendant des années. Et c'est important, c'est la seule scène où on peut raconter le couple qui a existé.
Et puis il y a des formidables scènes de surf, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il a aussi une autre passion, ce gamin dans la vie, c'est de surfer, c'est de trouver la vague. Sauf que comment surfer en ayant un champ de vision réduit, parce qu'il faut quand même voir où l'on va, voir où sont les autres surfeurs. Il y a des quiproquos, il y a des embrouilles qui commencent à naître, mais il y a surtout de très 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 belles scènes de surf. Et d'ailleurs, dans la vague, comme autour de la vague, c'est superbement bien filmé. Que l'on soit surfeur ou pas, en tout cas, on y prend goût et on comprend le plaisir qu'il peut avoir, de voler. Parce que peut-être qu'il a moins de problèmes de dépendance. Il n'y a pas d'autre obstacle que d'avoir la bonne vague au bon moment et d'être sur la planche.
C'est merveilleux. Ouais,
et alors, je suis allé voir sur Internet, pardon, si c'était possible. Oui, il y a des non-voyants et des malvoyants. Il y en a même un qui a fait la plus grande vague de 35 mètres au Portugal. Ouais.
À Nazareth.
Ouais, exactement. Ouais. Ah oui, vous êtes surfeur?
Non, mais je connais son histoire, oui, bien sûr.
Elle est incroyable, incroyable, ça donnait
il est surfeur, il a dit tout à l'heure.
Je suis surfeur, mais j'ai un problème de wax.
Ouais. Plutôt surfeur sur Internet, pour l'instant. je me le donne, allez, c'est fait. Voici Tanguy, passion.
J'espère que vous avez passé un bon week-end.
Et toi,
on n'a pas le temps de faire un tour de table pour entendre chacun, donc je vais vous parler du mien. Ça va aller plus vite. Très bon week-end. Figurez-vous que je suis allé voir le spectacle de Daniel Morin. C'était samedi après-midi. C'est pour ça qu'il n'est pas là ce matin. Hein. Morin, c'est une heure de show, 7 jours de récup. Et c'est marrant parce que pour la première fois, j'ai vu Daniel debout. Ici, on le voit toujours assis. Je savais même pas qu'il avait des jambes. J'imaginais que son corps s'arrêtait sous le pubis et qu'il se traînait par terre. Et que c'était le seul qui usait ses slips comme on use ses chaussures. Tout ça pour vous dire que Daniel Morin est drôle sur scène. C'est un autre homme, en fait. Que son rodage continue au Point Virgule à Paris et ce dimanche au Spotlight de Lille. Je dis ça parce que les gens en ont marre que je fasse ma pub à moi. Ils en ont marre d'entendre que je serai au Théâtre de la Gaîté Rive Gauche à Paris les 16 octobre, 20 novembre et 11 décembre pour 3 dates exceptionnelles. Vous connaissez le Point Virgule, les saltimbanques?
Oui.
Ah, on est d'accord que le lieu est mignon, c'est cosy, ça ressemble tellement à un cocon que j'aurais été à peine surpris qu'un spectateur se transforme en papillon à mi-spectacle avant de se barrer par le plafond. Et en fait, dans ce genre de café-théâtre, on se sent protégé du monde extérieur. Le retour à la réalité après est toujours dur. Là, on est sorti, il pleuvait, Daniel a fait des selfies avec ses fans, il ressemblait à un chien mouillé. Les selfies sont sûrement devenus des photos de profil pour sites de rencontres zoophiles. Je sais pas si ça existe d'ailleurs, mais ça faciliterait les dates pour ces gens-là. Vous imaginez que certains sont obligés d'aller dans des bars à chats, faire semblant de regarder les BD et du coin de l'œil reluquer des félins qui se lèchent en transpirant. Oh. Et là, vous vous dites, cet humour, ce n'est pas Pastureau. Hein, ce celt en général est moins trash que ça. Oui, mais ça, c'était avant de voir Daniel Morin. Hein, parce que lui, mais alors, il ose tout. Il parle blanchiment d'anus et dans phrase, associe Mère Teresa et Cunilingus. Non. J'y suis allé avec mon fils de 11 ans. Grave erreur. Si je l'avais pris 15 jours en août au Cap d'Agde avec moi, plus un quart d'allemand, ça l'aurait fait moins grandir que ça. Bref, j'étais sous la pluie, devant le point virgule, à regarder Daniel communier avec son public, des auditeurs de France Inter. C'est émouvant de voir des gens de gauche, ça rappelle avant. Quand l'un de ses fans est venu me voir pour me dire « Vous avez vu Paul Watson, ce qu'ils lui ont fait à la fête de l'UMA ?» Parce que ces gens-là ont des sujets de conversation inintéressants. Mais j'ai fait semblant d'être concerné. Pour ça, j'ai une tactique, je fronce un peu les sourcils. Hein, c'est ma tête de concentration. Pendant ce temps, j'imagine que je suis aux Seychelles à faire griller la couenne comme une chipot Intermarché. Et quand la personne a fini, je fais « Oui !» C'est comme ça qu'elle m'a eu Adèle Von Red pour cette saison. Moi, je voulais pas reprendre, mais j'ai fait « Oui !» alors que j'avais rien écouté de la proposition, hein, qui était reprendre à l'identique, sans augmentation de salaire ni considération excessive. Mais là, quand même, Paul Watson, je me suis dit, c'est une des idoles de Nagui, avec Jean Messia et Ted Bundy, donc intéresse-toi. Hein, je vais sur les sites d'infos, et en effet, ce week-end, il y avait la fête de l'UMA. Vous êtes au courant, ouais. Le rendez-vous des gens de gauche, fête sur laquelle chaque année il pleut. Là, j'ai regardé, hein, on annonce du beau toute la semaine, mais samedi, dimanche, il a flotté. La météo est de droite. Hein, et à la fête de l'UMA, samedi, ils ont reçu Paul Watson, le papa des bananes. Nagui, je rappelle, vous aviez appelé à sa libération, il était en prison au Groenland, mais eux étaient conscients que vous pouviez leur envoyer les quatre maestros qui chantaient le plus mal, histoire de n'oublier pas les paroles. Ils ont pris peur, ils ont paniqué, bon, ils l'ont libéré.
Absolument.
Bref, là, vous vous dites Paul Watson, écolo, militant, activiste, ça colle à la fête de l'UMA, hein, plus qu'Elon Musk ou Giorgia Meloni, je veux dire. Mais il y a des gens qui, alors qu'il était sur scène, se sont mis à crier qu'il était éco-raciste, éco-fasciste. Paul Watson n'est pas un camarade, se sont-ils mis à crier. Ne me demandez pas pourquoi, j'y comprends rien. Hein, la gauche, même s'ils étaient 100 en tout, chacun aurait un truc à reprocher aux 99 autres. C'est impossible à suivre. Si les Avengers étaient de gauche, au lieu de faire équipe, ces cons-là, ils seraient entretués. C'est mille fois plus simple d'être de droite. Il a raison, Bruno Pecky. Hein, je regardais le meeting de rentrée du RN hier, par exemple. Vous voyez, le RN, il y avait Jordan Bardella sur scène. Samedi, il a eu 30 ans d'ailleurs. Il est devenu grand, le Pichoun. Mais on l'a connu, il était tout petit. Hein, en plus, c'est perturbant parce que Jordan, c'est comme Théo ou Kevin, on les imagine pas vieillir. Mais c'est fou de se dire qu'un jour, à l'EHPAD, le personnel dira alors il me reste à faire les chambres de Jordan, Timéo, Thiago, Lana et Pomme. Enfin, trop long, hein, pour ce qu'il en reste. Ça fera bizarre, quoi. Hein. Et dans les quartiers bobos, ils diront ah bah non, Tancred s'est encore fait pipi dessus. Enfin, donc Bardella parlait, c'était fascinant. Il égrenait des solutions simples pour que la France redevienne la France. Il a 30 ans, mais lui, il sait exactement comment relever le pays. Moi, j'en ai 20 de plus. Parfois, j'oublie les œufs durs, combien de minutes faut les laisser dans l'eau. Hein, j'ai honte. Mon fils revient du pique-nique avec du jaune d'œuf partout sur le sweatshirt. Il me dit, papa, ça, c'était les yeux à la coque. Hein. Et Bardella, à un moment, on est venu à sa marotte. Vous savez, la privatisation de l'audiovisuel public, parce que pour eux, bah, ici, nous sommes de gauche. Mais que si vous parlez avec les gens à la fête de l'UMA, nous sommes de droite. Hein. Jusqu'en 2027, en fait, on va être au centre des débats. C'est normal. C'est le service public, celui que nous finançons tous directement, mais nous finançons aussi l'humanité. En 2023, l'aide publique à ce journal était de 5 millions d'euros. Et même le magazine Disney Girl, cette année-là, j'ai regardé, a perçu 23 014 euros qui ont dû être perçus par des licornes. Ticket. Voilà, je pensais à ça en regardant Daniel Morin, sa silhouette reboostée par le succès, entourée des gens qu'il aime. Moi, je ne regrette pas que mes impôts aient généré cet homme. Autant Old Laf. Mais non, je plaisante. Allez, bisous.
Merci, Tanguy. Passion. Tu as donné tes dates, hein. Parfait. Le film d'Audrey Fleurot et d'Annie Bounsor s'appelle Regarde, donc il sort ce mercredi. D'autres événements culturels, Leïla.
Une question pour vous. Il aura fallu attendre 1956 pour qu'on arrête de faire quoi dans les cantines scolaires ?
Boire de l'alcool.
Du vin.
Absolument.
Ouais. Modération.
Il aura fallu attendre 56 pour qu'on arrête de couper l'eau avec du vin. C'est ce qu'on faisait dans les cantines scolaires. Je vous parle de ça pourquoi ? Parce qu'il y a un documentaire qui...
Ils ont arrêté ?
Alors apparemment, vous avez sorti, vous avez quitté l'école avant 56, mais le documentaire qui s'empare de notre rapport à l'alcool, c'est demain soir sur France 2. Ça s'intitule tout simplement Boire. Et ça permet un peu d'expliquer
explorer nos liens avec ces substances-là. Je vous donne quand même quelques chiffres parce qu'on rigole souvent de ça.
Je m'étais fait engueuler par mes équipes quand j'avais retiré les pichets de rouge. Au catering des tournages. J'avais dit on va arrêter l'alcool et je m'étais fait engueuler.
Vu le avant-après. Oui, effectivement. Avant, il y avait toujours des bouteilles.
Toujours des pichets ou des bouteilles.
Sur les tournages.
Sur les tournages, ouais. à la cantine.
Et c'est plus le cas ou un petit peu quand même un
non.
peu.
Ou alors vraiment au cul du camion. Ouais. On se crède.
Dit-elle avec une bouteille à côté d'elle.
C'est un cadeau.
Absolument. Quelques chiffres quand même. Près de 50 000 personnes en meurent chaque année. Donc après le tabac, l'alcool, c'est le deuxième facteur de risque de morbidité évitable. C'est une culture française, on nous l'a souvent vendue comme ça. D'ailleurs, je vous rappelle que quand on boit un verre, qu'est-ce qu'on dit ? À ta santé.
Donc ça questionne
quand même un peu notre rapport culturel à la consommation
en même temps,
d'alcool.
À ta mort prochaine, ça casse un peu l'ambiance de la
France. C'est vrai. Mais bon, quand t'allumes une cigarette, on ne dit pas longue vie.
Non, c'est vrai.
Là, pour le coup, il y a quelque chose de festif autour de la notion de santé. D'ailleurs, longtemps, on nous a raconté dans plein d'émissions de télévision que consommer 2 verres d'alcool par jour.
Même bon pour la santé.
C'était bon pour la santé, le tanin ou je sais pas quoi. Ouais. Quand on interviewait, vous savez, Jeanne Calment, elle disait mon secret, c'était un verre par jour.
6 verres de rouge par jour.
Ah, 6 ? Ah bon ?
Oui, elle avait
c'était qu'un, mais alors c'est.
6 ? Ah, oui, non, non, 1. Moi, 6. Ah, bon, j'ai entendu 1.
Ah, non, c'est pas
dit 6. Tu avais dit 6 et toi, tu
as dit 6.
Merci,
en tout cas, elle consommait de l'alcool quotidiennement. Mais sachez quand même qu'au-delà des morts considérables que ça occasionne chaque année, c'est aussi l'alcool dans un foyer, c'est un risque accru. De violence familiale, donc de violence sur les enfants, sur les compagnons. C'est aussi un risque de rapport non consenti. Il y a beaucoup de témoignages, notamment dans ce documentaire, de jeunes gens qui racontent comment, dans des soirées, certaines jeunes filles et certains jeunes hommes ont été violés. La première cuite, elle intervient souvent à l'adolescence, c'est à peu près 15 ans, la moyenne. Donc c'est un peu vers là que ça se situe, notre premier rapport à l'alcool. Alors il y a plein de jeunes maintenant qui confessent qu'ils ne boivent pas du tout d'alcool. D'ailleurs, la consommation est en baisse, sauf que l'autre phénomène qu'on observe, c'est des épisodes d'alcoolisation intense. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est le binge drinking. On boit très vite, beaucoup, en grosse quantité. Donc ce documentaire, je vous recommande de le voir, c'est demain sur France 2. Et puis aussi, ça aborde une question qui a été taboue longtemps, c'est le rapport de l'alcool et des femmes. Un homme qui boit, un homme qui est alcoolique, bon, une femme qui boit, on l'entend de façon un peu plus détendue, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, au cinéma, ça fait pas si longtemps qu'on parle des femmes qui sont touchées par l'alcoolisme. Il y a eu un super film, il y a pas longtemps, Nos Jours Meilleurs. Où on voyait vraiment des femmes qui étaient en prise avec cette difficulté-là. Tout ça pour vous demander à tous les deux, non pas votre rapport à l'alcool, mais votre rapport aux scènes d'ivresse jouées dans les films. D'ailleurs, vous y passez dans ce film, Audrey Fleurot, jouer l'ivresse, jouer l'ébriété.
Avec du rhum.
Ouais, faut avoir quand même un tout petit peu
d'expérience,
de mémoire affective.
On va chercher dans sa bibliothèque d'émotions,
faut quand même que ça fasse un peu référence à quelque chose. Mais moi, j'aime bien. C'est pas facile de doser. C'est pas facile. Ouais. Mais pour en revenir à l'alcool, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Moi, je suis bourguignonne, donc je viens d'une famille où voilà, le rapport à l'alcool était excessif. Donc j'ai fait un petit rejet. Et en même temps, se pose la question de vous voyez la grosse journée. Vous rentrez chez vous, vous avez l'impression de vous avez besoin d'un petit sas de dépressurisation. Vous avez
une douche,
une grosse journée.
Une douche.
Vous avez couché les enfants.
Un masque.
Et vous avez besoin d'une petite récompense. Et donc je me dis purée, qu'est-ce qu'on. Alors bon, il y a des gens qui fument. Je ne fume pas. Il y a
des gens qui mangent.
Palliatif. Voilà. C'est compliqué de vivre sans ce petit palliatif. Enfin, sans ce moment de réconfort qui vous permet un peu de faire de redescendre un peu d'une journée.
C'est très culturel, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que quand on n'a jamais vu de l'alcool à la maison, on ne pense pas à boire un verre quand on rentre. C'est
voilà,
aussi ça.
Voilà.
C'est aussi
et en tournage, c'est pas fastoche.
C'est vrai.
Ben oui, parce que c'est des grosses journées. Vous rentrez, vous êtes toute seule dans votre Airbnb et puis vous me dites « Oh, je boirais bien un petit verre quand même pour me... » Et voilà, bon, bref, il faut trouver un autre...
Enfin, ça reste un plaisir aussi avec modération, ce qu'il faut, c'est garder cette petite dose pour aussi...
Bien sûr, là, je parle vraiment d'une addiction.
Non, mais c'est vrai que
ça va vite.
C'est une drogue comme une autre, et il faut le rappeler.
En vente libre.
Ouais. Comme disait Coluche, avec des dealers à tous les coins de rue,
c'est
en parlant des troquets.
Ouais, bien sûr.
Quelqu'un a un tire-bouchon?
À force d'en parler.
Oui. Moi, on me pose pas la question.
Si,
alors.
Si, mais on attendait
parce que c'est du Nord, c'est ça?
Pardon. Non.
Obélix,
on vous la pose, on attend la réponse.
Eh bien, je n'en ai pas. Non, je bois pas. Quand j'aime bien boire du bon vin, mais avec les autres. C'est festif.
Le partage.
Festif. Ouais. J'aime bien partager. Mais
Les Jours Meilleurs dont tu parlais, c'est un film réalisé par Elsa Bennett, hein, je le rappelle, avec Valérie Bonneton, Michel Larocque,
Sabrina Ouazzani et Clovis Cornillac.
Dans les projets, est-ce que on peut en parler très rapidement, Audrey, si oui ou non HPI s'arrête ou pas?
Ah bah oui, on est tous en deuil, mais je crois que c'est bien, c'est une décision mûrement réfléchie.
Et c'est la semaine prochaine que TF1 diffusera l'avant-dernier épisode de la série HPI,
voilà,
intitulé Il faut qu'on parle, et le 25 sera le tour du dernier épisode Supernova, pour terminer ces 5 saisons d'un énorme succès. Et Dany est en tournée avec votre spectacle, votre seul en scène, du 10 au 12 et du 17 au 19 au Casino de Paris, et ensuite il y aura Orléans, Tours, Poitiers.
Je reviens à Paris,
Angers,
au Dôme.
Ouais, ça sera le 23 janvier.
Ouais, on a rajouté une date.
Grande date, et puis en tournée également en 2026. Des excuses à présenter, Bruno Pécu.
Oui, désolé pour Isabelle, Sophie, Fatima, Sylvie, bref,
non,
toutes les infirmières qui parfois nous écoutent quand elles ne se sacrifient pas pour nous sauver. Des femmes admirables qui ont été choquées, humiliées par le dérapage d'Audrey Fleurot, avec une pensée particulière quand même pour l'infirmière qui a déjà frôlé un câlin avec Danny Boone. Comme si elle n'avait pas assez souffert comme ça. Alors par rapport aux infirmières, je préfère le dire, hein, Audrey ne le pensait pas et s'est excusée. Voilà. Contrairement à ce qu'elle a balancé sur Strasbourg, là il n'y a pas eu d'excuse pour ces quasi nazis bouffeurs de bretzel comme elle les appelle. Désolé pour le réalisateur du film Regarde, qui était persuadé que son film avait bien démarré avec beaucoup de public. Eh bien non, c'est juste la famille Boone qui le regarde en boucle. On dit merci qui? Merci les ch'tis. Désolé enfin pour Audrey Fleurot, qui, on l'a bien compris, n'a pas été aidée avec sa famille, hein, entre un beau-fils qui ne fait que de parler avec des bruits et un père qui n'a pas été foutu de devenir géomètre, alors qu'elle, elle a pu faire hippocagne. Une vraie HPI, en fait.
Merci Bruno, merci Audrey Fleurot, merci Danny Boone. Demain, allez voir Regarde, donc au cinéma, mercredi, et ouais, réalisé par Emmanuel Poulain-Arnaud, avec Ewan Bordelès et Nicolas Marié, entre autres, sans oublier Amalia Blasco. Demain, nous recevrons Lindan Pham et Ramzi Bedia.